Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Curium et l'inconvénient. Au programme, What's up, what's up? Midjo Wigan, nourriture. Est-ce qu'on bouge après la mort? Et l'idée d'être écrivain. Bonne écoute.
What's up, Watso? Mezzoe Ongan, nourriture. Un texte de Xavier Watso, paru le 17 février 2023 dans le magazine Curium. En tant que foodie, je me fais toujours un plaisir de parler des spécialités culinaires autochtones. Je vous ai déjà mentionné la bannique et le jus de fraise que l'on retrouve dans les powwows. Cette fois, laissez-moi vous mettre l'eau à la bouche avec trois incontournables de ma nation. La sagamité, ou la soupe des trois sœurs. La sagamité nourrit le peuple abénaki depuis des centaines d'années. À l'origine, cette soupe-repas était préparée dans une grande marmite au centre de la maison longue. Pendant des jours, la matriarche du clan ajoutait de la viande de chasse au bouillon et aux trois autres ingrédients. Ces derniers sont représentés par trois sœurs dans la légende abénakise. Les trois sœurs font référence aux anciens aliments de base des Premières Nations, le maïs, la courge et les fèves rouges. La légende raconte que ces trois sœurs s'entraidaient pour compenser leurs faiblesses respectives. Le maïs pousse grand et fort. La fève rouge s'y accroche et enrichit le sol d'azote. La courge, avec ses grandes feuilles, retient l'humidité dans le sol. Ça évite que le soleil assèche les deux autres plantes. Les trois se soutiennent, se complètent. C'est pourquoi nous les faisons toujours pousser ensemble. Le thé de cèdre. Selon la médecine traditionnelle abénakise, le thé de cèdre regorge de propriétés curatives. Consommée chaude ou froide, cette boisson est aussi utilisée pour se désaltérer ou pour se réchauffer selon la saison. Recette du thé de cèdre. 3 tasses d'eau, 2 tasses de sucre, 4 tasses de feuilles de cèdre. Nectar de pêche ou eau pétillante. Faire bouillir l'eau et le sucre. Remuer pour dissoudre. Retirer du feu et laisser le cèdre infuser 10 minutes. Passer au tamis. Réfrigérer au moins 20 minutes. Servir avec un peu de nectar de pêche ou d'eau pétillante. L'esturgeon fumé. Encore de nos jours, la chasse occupe une place très importante au sein des communautés autochtones du Québec. Chez les Abénakis de Danak, en revanche, la pêche est la grande vedette de notre alimentation. L'esturgeon est même l'emblème de notre village. Si vous n'avez jamais eu la chance de goûter à l'esturgeon fumé, je vous invite au Powwow de Danak l'été prochain. C'est une expérience gustative inoubliable. J'en raffole tellement que je me suis fait construire un fumoir derrière chez moi pour fumer mon propre esturgeon. Ces trois spécialités ne sont qu'une infime partie de l'offre culinaire de ma communauté. Imaginez les possibilités quand on ajoute les 10 autres nations du Québec, chacune ayant ses propres traditions et ses propres saveurs. Je salive déjà. C'était What's up, Watso, Mezzoe Ongan, nourriture, un texte de Xavier Watso, paru le 17 février 2023 dans le magazine Curium. Est-ce qu'on bouge après la mort? un texte de Margot Boudreau paru le 18 mars 2021 dans le magazine Curium. On dit que les morts reposent en paix. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on bouge après la mort? La réponse? Oui. Si la rigidité cadavérique post-mortem est un signe biologique bien connu, elle disparaît quand la décomposition du corps commence. Encore mieux, il semblerait que le corps continue de bouger plus d'un an après la mort. C'est ce qui a été découvert dans une ferme des morts à Sydney, en Australie. Une ferme des morts, ou ferme des corps, body farm en anglais, est un établissement de recherche qui étudie la décomposition du corps humain après la mort pour faire progresser la médecine légale. On pense que ces mouvements sont liés à la décomposition. Les gaz prisonniers du corps, ou même des insectes, peuvent aussi faire bouger les membres d'un cadavre. Conclusion. Ce n'est ni la magie noire, ni un virus zombifiant qui fait bouger les morts. Simplement, la bonne vieille pourriture. C'était « Est-ce qu'on bouge après la mort ?» un texte de Margot Boudreau, paru le 18 mars 2021 dans le magazine Curium.
L'idée d'être écrivain. Réflexion sur les carnets d'André Major. Un texte de Thomas O. Saint-Pierre, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. J'ai pris conscience de l'existence des carnets d'André Major en même temps que j'apprenais celle de leur auteur. C'était en 2007, au moment de la parution du deuxième volume de ces carnets, intitulé « L'esprit vagabond ». J'avais 20 ans. Et j'étais omnubilé par une idée unique et obsédante qui tardait à se concrétiser, celle de devenir un écrivain. Alimenté par ce rêve que je ne perdais jamais de vue, j'étais bien intrigué par le projet de Major, rare au Québec, de publier des réflexions personnelles sans balises claires. Ça me semblait européen, intellectuel, impressionnant. Cependant, je ne pense pas m'être rendu bien loin dans la lecture de ces carnets, car j'y cherchais avant tout des fulgurances, des maximes, des aphorismes tranchants et les effets de toge d'un virtuose crâneur. Or, rien de tout cela ne ressemble à André Major et j'ai rapidement délaissé ma lecture. 15 ans ont passé et, il y a quelques mois, je suis retombé sur ces carnets et le titre du premier volume, « Le sourire d'Anton » où l'adieu au roman m'a attiré. Le Anton du titre, c'est Tchekhov, écrivain fétiche de Major, que, par ailleurs, j'aime bien sans l'avoir beaucoup fréquenté. En vérité, c'est l'adieu qui, dans ce titre, m'a interpellé. Peut-être parce qu'entre-temps, j'étais effectivement devenu écrivain et que j'avais, entre autres, publié 4 romans dont la qualité, ou la réception, m'avait laissé sur ma faim. Je ne remets pas du tout en question ma vocation d'écrivain, notamment parce que je ne saurais pas comment me libérer de cette manie, comme le dit Major lui-même, qui me définit autant qu'elle structure ma vie. Mais la fiction, elle, si je l'aime toujours autant comme lecteur, je ne sais plus quoi en faire comme auteur. Il me semble, quand je jette un regard sur les romans que j'ai écrits, qu'ils tiennent à bien peu de choses et que, si j'ai, ou si j'ai développé un certain talent pour la construction d'une œuvre littéraire, on pourrait dire en revanche que je n'ai pas beaucoup d'histoires en moi à raconter, à faire vivre, à exporter vers d'autres marchés imaginaires. Ce qui fait qu'on peut trouver dans mes romans quelques observations justes et des manœuvres habiles, mais elles tiennent par la ficelle de clichés narratifs, de scènes convenues, parfois tout simplement fausses, qui ne convainquent pas, qui n'engage personne, qui ne me plaise plus. Quoi qu'il en soit de cette auto-évaluation de mon travail de romancier, ce que je voulais dire, c'est que j'étais, en 2021, dans d'excellentes dispositions pour lire les carnets d'André Major, non seulement les deux premiers volumes déjà mentionnés, mais aussi les trois autres qui ont été publiés depuis « Prendre le large » paru en 2012, « L'œil du hibou » paru en 2017 et « Les pieds sur terre » paru en 2020. Je n'étais plus à la recherche d'écho à mon besoin juvénile de briller, mais plutôt d'une certaine camaraderie qui me permettrait de jeter un regard paisible sur les limites de la pratique littéraire et la frustration de ceux qui s'y adonnent sans être de vrais maîtres. L'acteur de la littérature nationale. Autodidacte, autoproclamé, Major abandonne ses études classiques alors qu'il a 18 ans. Il est expulsé du collège pour avoir publié un texte jugé trop défavorable au clergé. Il gagne par la suite sa vie comme journaliste littéraire et écrivain. Très tôt, avant même ses 20 ans, il publie son premier livre, un recueil de poèmes. En 1963, à 21 ans, il participe à la fondation de la revue Parti pris, puis, l'année suivante, il publie son premier roman, Le Cabochon, probablement celui de ses livres qui est encore de nos jours le plus lu, entre autres parce qu'il s'inscrit parfaitement dans une perspective nationale, voire nationalisante, de l'enseignement de la littérature. Dans cette perspective, on considère avant tout la littérature non pas comme un art, mais comme une occasion d'enseigner l'histoire sociopolitique. Antoine, le protagoniste du Cabochon, est dès lors réduit au rôle de guide historique présentant la vie dans un quartier populaire de Montréal au sortir de la Grande Noirceur. À ses débuts, Major publie beaucoup. De 1962 à 1976, ce sont pas moins de 12 livres qu'il lance dans le monde et dans tous les genres, romans, nouvelles, poésie, théâtre, essais. Les trois derniers de ses livres constituent ce qu'il appelle une chronique romanesque, la trilogie Histoire de déserteurs, dont le dernier volet, Les rescapés, lui vaut le prix du gouverneur général. Après cette période faste, les publications se font plus rares. Il faut dire que le temps passe et que la vie adulte prend racine. L'auteur a désormais un emploi à temps plein, comme réalisateur à la radio publique, et des enfants. Au milieu des années 1970, qui sont celles de sa trentaine, Major commence à écrire régulièrement dans un carnet forme littéraire qu'il goûte particulièrement comme lecteur, et ce, depuis longtemps, notamment les œuvres d'auteurs comme Cioran, Gombrowicz, Gide, Pavese. Passé le cap de la quarantaine, il se consacre de plus en plus à cette bouée de sauvetage littéraire qui ne prendra la forme de livres que quelques décennies plus tard, où il rend compte de sa fatigue créatrice. Comme si on voulait lui confirmer que sa vie d'écrivain était effectivement derrière lui, on lui remet en 1992 le prix Athanase David, censé couronner l'ensemble d'une œuvre. La sienne est-elle finie? Il n'a pourtant que 50 ans. Les carnets. Malgré toute la sympathie que j'éprouve pour ce projet et l'admiration que j'ai pour plusieurs des livres de Major, il n'en reste pas moins que, sur le fond, bien des choses devraient me déplaire dans ces carnets. Il faut dire que Major a le défaut, je parle de l'auteur, bien sûr, et non de l'homme, que je ne connais pas, de tous ceux qui, non sans insistance, se proclament des esprits libres, osant s'éloigner du troupeau qui ne tolère pas les écarts au discours dominant. C'est-à-dire qu'ils professent des opinions sociopolitiques qui sont très arrêtées et intransigeantes, mais qui, au fond, ne sont pas aussi originales qu'ils le pensent. Les Québécois parlent et écrivent mal le français. La majorité des livres sont des produits sans âme qui suivent une recette et ne servent qu'à divertir. Les féministes vont trop loin et prônent désormais l'inégalité. Les motomarines font trop de bruit sur le lac. Tout ça, comme la modophobie de Major, relève de la misanthropie particulière de ceux qui sont blessés par les autres ou déçus du monde. Cette ligne de faille parcourt en filigrane tous ses carnets, parallèlement à l'idée de la désertion, également omniprésente dans son œuvre romanesque. Major entretient dans ses écrits le fantasme un peu boudeur de fuir le monde, de s'établir dans une petite cabane au fond des bois avec une hache et quelques dizaines de grands classiques de la littérature comme seuls accessoires. Fantasme qui est ponctuellement réveillé par l'incapacité de celui qui le subit à le faire advenir autrement que par la littérature, comme si l'idée de la désertion agissait paradoxalement surtout comme un refuge pour son esprit fatalement casanier. D'ailleurs, dès les premières pages de ses carnets, Major écrit « Des déserteurs, il est plus facile d'en mettre au monde que d'en être un soi-même. » On pourrait même dire qu'entre ces pages, la désertion, ce moteur littéraire qui est le cœur thématique de son œuvre, semble se retourner contre la littérature elle-même. Insatisfait de sa vie d'écrivain, le pire drame pour l'écrivain n'est pas de garder le silence, mais d'entendre le silence du lecteur. Major se replie, un peu renfrogné, dans ses carnets qu'il compare tantôt à un désert, tantôt à un maquis. Mais il tient à cette retraite, à cette bouée qui permet de maintenir vivant le rapport entre soi et le monde. Un monde extérieur qu'il adore autant qu'il le hait. S'il peste parfois contre ses contemporains, la plupart des gens sont mesquins ou égoïstes, il est tout aussi prompt à s'attendrir de la rigueur du plombier qui vient chez lui, amoureux du travail bien fait qui prend plaisir à ce que son client lui apprenne de nouveaux mots. Surtout, Major est en amour avec le monde physique, avec la nature, d'abord, avec la forêt et les montagnes laurentiennes qu'il prend tant de plaisir à décrire, mais aussi avec les objets du quotidien qu'il aime manier et entretenir, qui constituent en quelque sorte les fidèles vassaux d'un royaume qui compense ce qu'il manque en importance par une indéfectible docilité. Ainsi, dans le millier de pages que compte ce livre de bord de son combat contre le silence, on sent toujours l'auteur tendu entre les deux pôles du discours amoureux, la poursuite et la fuite, la recherche de l'approbation et de l'amour, puis la fugue loin de la frustration. Ce qui lui fait dire « Ce rêve d'un détachement que je cultive depuis des décennies, je ne le réalise qu'imparfaitement. » À cet égard, la publication des carnets n'est pas anodine. Ces carnets, Major en a écrit des dizaines depuis 1975. Pour l'écrivain un peu désabusé de la magie de la littérature et surtout de la fiction, ces pages semblent agir comme de la méthadone, un succès donné peu glorieux mais efficace, à consommer en secret pour pouvoir vivre en paix, loin de la tentation de se lancer dans un nouveau chantier romanesque, un projet qui coûte toujours si cher en temps et en énergie et en déception. Mais cet équilibre entre tentation et insatisfaction est fragile. Au début des années 2000, Réginald Martel suggère à Major de soumettre un recueil de ses fragments, dont certains ont déjà été publiés dans Liberté, pour le prix de la revue Études françaises. On voit dans les carnets que l'auteur hésite, mais on sait de toute façon qu'il flanchera, puisqu'on a le résultat de cette rechute entre les mains. De méthadone, les carnets redeviennent héroïnes littéraires. Ils seront publiés, ils deviendront eux aussi un livre jeté dans le monde, une petite prière en papier vulnérable au jugement d'autrui. Le patient ne se remettra pas de cette rechute. À même le carnet, on le surprend en train de travailler au prochain volume sans qu'il semble en avoir pris la décision ou y avoir réfléchi. Jusqu'alors présenté comme une retraite secrète, les carnets sont magiquement devenus un projet d'écriture. On remarque la même ambivalence au sujet de sa correspondance avec Jacques Ferron, qui le gêne et qu'on lui propose de publier depuis quelques années. Il résiste, allant même jusqu'à prétendre qu'il préférerait qu'on ne publie que les lettres de Ferron et pas ses réponses. Et pourtant, en 2004, elles paraissent. Pour la fiction, c'est un peu la même chose. Major lui fait ses adieux dans un carnet qu'il commence en 1975, mais publie pourtant encore 4 livres de fiction après ça. Un recueil de nouvelles, La folle d'Elvis, paru en 1981, une novella, L'hiver au cœur, paru en 1987, et deux romans, parus en 1995 et en 2013, La vie provisoire et À quoi ça rime? Bref, les adieux n'étaient pas véritablement des adieux. La retraite n'en était pas véritablement une. Et l'écrivain, s'y installant de plus en plus confortablement, le maquis est devenu quelque chose comme une demeure qui n'a plus rien de l'abri temporaire. Vous écoutez L'idée d'être écrivain, réflexion sur les carnets d'André Major, un texte de Thomas Haut-Saint-Pierre, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. L'idée d'être un écrivain. Pourquoi ce double discours, cette valse hésitation, cette schizophrénie? Loin de moi l'idée de répondre à la place de Major. Sa réponse exacte, elle tient en 5 volumes. Il suffit de les lire. Mais je veux quand même me prononcer non pas sur son cas particulier, mais sur ce dilemme de la création qu'il creuse dans ses carnets en même temps qu'il l'illustre et que je me permets de reprendre à mon compte parce qu'il me rejoint profondément. Demander au créateur pourquoi il continue de créer même si ses créations ne lui apportent pas ce qu'il en attend, sait-il même ce qu'il en attend? Ça revient à demander à l'amoureux pourquoi il continue de tomber amoureux, même quand toutes ses relations finissent mal. Je veux dire, qui peut-il, vraiment? Et est-ce si grave? Il faut bien être quelque chose. Cela dit, à ces questions, formulées autrement, Major envisage plusieurs réponses. Il n'est dupe ni des promesses de la littérature, ni de ses propres résolutions d'amoureux effarouchés. Il est bien conscient de l'ironie de publier un adieu au roman avant de publier d'autres romans. De ses nombreuses réponses, qui sont en fait des réflexions, des pistes, il y en a quelques-unes qui m'ont davantage rejoint que les autres. D'abord, on ne peut pas entreprendre d'écrire si l'on n'a pas été, comme le dit Népol, amoureux de l'idée d'être un écrivain. En revanche, cette idée ne nous lâche plus même quand on n'écrit pas, ou, pire encore, qu'on tente de rompre avec cette manie. Ensuite, une fois révolu le recours à l'écriture, le désir d'être considéré comme un écrivain persiste-t-il autant que l'amour-propre de tout un chacun? Enfin, il est facile de devenir écrivain, difficile de le demeurer et presque impossible de cesser de l'être. À mon sens, tout est là. C'est une des choses qui m'ont le plus touché dans ces carnets. Cette vulnérabilité, c'est celle de tout écrivain, de tout artiste, peut-être de toute personne. Car tout le monde, pour donner un sens à sa vie, s'investit dans des projets, dans des relations, dans des fictions, celle d'être un écrivain ou celle d'être un amoureux ou d'être un employé indispensable ou le parent parfait et que sais-je d'autre encore. Et quand on s'investit, on se dévoile. On ouvre la porte à la souffrance et à la frustration. Les victoires sont enivrantes, mais les déceptions coûtent cher. Et aucun calcul ne permet d'évaluer si ça en vaut la peine. C'est la vie. Aussi bien demander à un castor si la construction laborieuse de son barrage en vaut la peine. Moi, je le sais trop bien. Si j'ai commencé à écrire, c'est avant tout parce que je voulais devenir un écrivain, tout simplement. Et je n'atteins sans doute pas la satiété identitaire ou ontologique que j'espérais peut-être. Mais je ne suis pas triste. Moi aussi, je suis parfois boudeur et par moments frustré. Mais pas triste. Il y a en fait une partie de moi qui est contente, reconnaissante même, d'encore ressentir le tiraillement de la faim, du désir quand une idée se présente. Alors, à bien y penser, je ne vois pas grand-chose d'ironique dans ce projet de carnet d'André Major, dans ce faux ermitage, dans ces faux adieux. De même, je trouve très apaisant tous ces passages où il relate ses promenades en forêt comme les menus travaux qu'il exécute dans son chalet. Il est beau de le voir se lever avec tendresse dans ce qu'il appelle le monde matériel, dans le quotidien, même quand il est ponctué de rechutes littéraires. Cela dit, je suis conscient qu'un autre lecteur parcourant ces 5 carnets pourrait en tirer un tout autre constat, parce qu'il s'accrocherait à un autre fil conducteur. Car il y a beaucoup de choses dans ces pages riches qui ne manquent pas de qualité. Je pense notamment à la conception rigoureuse qu'a l'auteur de la langue, mais surtout à son admirable passion pour la littérature, la passion d'un grand lecteur, qui s'apparente presque à une fétichisation et qui prend la forme d'abondantes suggestions de lecture, de commentaires et de citations. Ainsi, ces carnets, ce sont aussi des recueils de courts essais, à la forme libre et au ton personnel sur les auteurs qui ont accompagné Major toute sa vie, Tchekhov, Flaubert, Tolstoï, Anki, Gombrowicz, Bernard, Kafka, etc. Ces réflexions s'inscrivent dans une trame autobiographique très pudique, que la publication décalée rend encore plus intéressante. On se demande comment il réagira à tel événement, comment il justifiera la publication d'un roman en 1995, etc. On appréciera également de pouvoir profiter de ce point de vue précieux sur la vie littéraire québécoise des 60 dernières années. Je pense notamment aux mots très sobres et élégants que Major écrit à la mort d'un écrivain qu'il a connu ou fréquenté. Il y souligne pudiquement ce que l'œuvre ou la personne lui a appris, mais sans tomber dans l'emphase ou l'exagération. Ces passages nous font voir quelque chose de beau sur le défunt, mais aussi sur l'ami qui nous en parle.
Pour entendre la suite de « L'idée d'être écrivain », restez à l'écoute, parce que « On lit pour vous » continue après la pause. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.